L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Paris Jean-François Chaperon, agriculteur et éleveur français, président de la coordination rurale du département de l'Hérault. Avec lui, nous allons nous pencher sur les origines de la crise des agriculteurs qui secoue actuellement la France, l'Allemagne et la Belgique et commence à se propager partout dans les pays européens. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Depuis des décennies, la Commission européenne étouffe, selon les déclarations des syndicats, les agriculteurs avec des dizaines de restrictions et de normes. Elles réduisent de plus en plus la marge de profit, amenant beaucoup d'agriculteurs et d'éleveurs à vendre leurs exploitations à cause du surendettement. Bruxelles accélère actuellement l'ouverture de l'économie européenne aux marchés mondiaux en négociant des traités de libre-échange à tour de bras. Ceux avec l'Ukraine et bientôt avec la Nouvelle-Zélande sont les derniers exemples en date. En effet, deux accords ont été particulièrement dévastateurs pour l'agriculture et l'élevage qui avaient entraîné une véritable catastrophe sociale. Celui conclu avec le Canada, entré en vigueur depuis septembre 2017, et celui avec le marché commun du Sud, qui rassemble le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Des accords ont surtout favorisé les gros producteurs américains au détriment des agriculteurs européens qui font face à une concurrence déloyale qu'ils ne peuvent pas supporter, minant la viabilité du secteur agricole européen. En dépit des efforts des agriculteurs, l'Europe a ouvert ses marchés à l'importation de produits dont les conditions de production ne respectent guère les standards imposés dans le continent. Hormones, antibiotiques, farine animale, OGM, étiquetage, produits phytopharmaceutiques, bien-être animal, biosécurité, normes sociales, fiscales et environnementales. Or, l'agriculture n'est pas une activité économique comme les autres. La délocalisation de la production agricole n'a pas que des conséquences en termes d'emploi ou de flux migratoires. Elle fait peser de lourdes menaces sur les tissus ruraux, sur la sécurité alimentaire, sur les aspects naturels, sur les paysages et sur la gastronomie, donc sur la santé des populations. Dans toute l'Europe, en France, en Allemagne, en Italie, en Belgique, en Pologne, en Roumanie, en Espagne et aux Pays-Bas, des agriculteurs protestent en bloquant des routes pour demander qu'il soit mis fin à l'arbitraire de la bureaucratie européenne. Les éleveurs déversent également des tonnes de fumier et de déchets devant les portes des préfectures, des bâtiments administratifs et des supermarchés. Le ministre hongrois de l'Agriculture a déclaré à Spoutnik que Bruxelles devrait protéger les intérêts des agriculteurs européens contre l'Ukraine et non l'inverse. En France, le Premier ministre Gabriel Attal a été contraint d'annoncer une série de mesures pour soutenir l'agriculture française. Cependant, elles n'ont pas abordé la question des importations de céréales, notamment depuis l'Ukraine. Il a seulement été constaté que des négociations s'ouvrent à ce sujet. Une grande partie des syndicats agricoles français ont décidé de lever des barrages, mais certains veulent toujours poursuivre les protestations. Les agriculteurs polonais entament une grève générale le 9 février et prévoient notamment de bloquer la frontière avec l'Ukraine pour protester contre la politique agricole européenne, ont déclaré les initiateurs de l'action. Ainsi, pour faire le point sur ce combat des agriculteurs européens et ses possibles voies d'évolution, j'ai le plaisir de recevoir depuis Paris Jean-François Chaperon, agriculteur et éleveur français, également président de la coordination rurale du département de l'Hérault.
Jean-François Chaperon, bonjour et merci d'avoir accordé, d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Bonjour Kamal.
Je rappelle que vous êtes donc le président de la coordination rurale de l'Hérault. C'est ça.
Voilà, c'est bien. Ça qui est alors, un département du sud de la France.
Voilà, un département du sud de la France. Alors, ma première question, Monsieur Chaperon, qu'est-ce qui se passe actuellement concernant vos manifestations d'agriculteurs pour demander ce qu'on revoie vos conditions de travail, vos statuts et évidemment la question là de vos revenus?
Alors, on a une révolte agricole, je vais dire, carrément, en France. C'est-à-dire que les agriculteurs n'en peuvent plus. Ils sont en train de crouler sous les obligations administratives qui sont données en particulier par l'Europe et la PAC, la politique agricole commune, mmh. et qui est relayée, parce qu'on appelle ça le millefeuille administratif, qui est relayé par les autorités françaises, qui fait qu'on est en train d'asphyxier complètement l'agriculture et surtout de la diriger et de les entraîner vers une faillite qui est certaine. Donc aujourd'hui, les agriculteurs disent « on n'en peut plus ». Donc ça a été orchestré, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est orchestré depuis 70 ans, on va dire. En France, on a un syndicat principal qui est la Fédération des syndicats agricoles, des exploitations agricoles, qu'on appelle la FNSEA, et qui a aussi une antenne qui s'appelle les JA, les jeunes agriculteurs. Et depuis 70 ans, mais surtout depuis 10 ans, elle est à la main des agro-industriels qui sont en train d'anéantir l'agriculture française et européenne au profit de la mondialisation et de l'agriculture américaine.
Quand vous dites que les directives de la Commission européenne concernant, je veux dire, l'agriculture et la PAC, la politique agricole commune, cherchent à assassiner l'agriculture en Europe, à ruiner les agriculteurs européens au profit du marché mondial, donc ça sous-entend des importateurs qui vont contrôler le marché européen en ramenant des produits moins chers. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer deux ou trois, justement, dispositions de cette PAC ou directives de l'Union européenne qui mettent à mal et que vous jugez comme des directives voulant ruiner l'agriculture européenne?
Alors, une des méthodes les plus employées, et surtout maintenant où on est en train de faire du greenwashing, c'est-à-dire qu'on va produire plus vert que vert, donc on limite la possibilité d'avoir des produits phytosanitaires pour la défense des cultures, ce qui fait qu'on a aujourd'hui des ravageurs qu'on n'arrive plus à maîtriser. On a des productions entières qui s'effondrent, comme la production de betteraves, mais surtout les productions de légumes. La France est passée des plus autonomes en production de fruits et légumes, alors que c'était un des grands producteurs européens. Donc on met des contraintes administratives et on fait faire des choses aux agriculteurs qui baissent leur production et qui les rend extrêmement difficiles. Et puis après, on fait rentrer du produit d'importation qui vient d'autres régions du monde et on signe des accords avec le Mercosur, on signe des accords, là la semaine dernière, on a un pré-accord avec le Chili, on a passé des accords, la communauté européenne, avec la Nouvelle-Zélande pour mmh. faire rentrer de la viande et du lait et plein de produits. Donc voilà, on met des contraintes aux Français et qui les empêchent de produire et d'un autre côté, on laisse rentrer des marchandises d'ailleurs de l'Europe.
Mais dans ce cas, Monsieur Chaperon, est-ce que vous voulez dire que les contraintes ou les conditions de production qui sont imposées en France ou en Europe en général ne sont pas appliquées aux produits qui sont importés? C'est-à-dire que les produits qui sont importés ne sont pas soumis aux mêmes directives?
Exactement. C'est-à-dire que en France, on a le droit de donner à manger dans les cantines des produits qu'on n'a pas le droit de produire en France. c'est toute la difficulté. C'est-à-dire qu'on met des contraintes aux agriculteurs qui ne sont pas réalisables. Et puis, on nous rajoute des taxes. Bon, avec la soi-disant guerre d'Ukraine qui a bon dos, on nous a augmenté l'énergie de façon très importante.
Oui.
Et on a là donc des taxes sur le GNR, c'est le gasoil non routier, c'est le gasoil, l'énergie des tracteurs en France qui augmente. Donc on a tous nos intrants qui rentrent, qui augmentent, et on n'a plus de moyens. En plus, on a une période de sécheresse qui a été très importante en France.
Absolument.
Cette année. C'est pour ça que dans le sud de la France, c'est assez compliqué. Et on a mainmise sur des systèmes coopératifs sur les agriculteurs qui les ont dirigés en les obligeant à prendre certaines directions stratégiques. Et qui font qu'aujourd'hui, ben, les agriculteurs, en particulier les viticulteurs, puisque moi je suis dans un département de viticulture, sont dans des impasses commerciales, qui font qu'ils n'arrivent plus à vendre leur vin parce qu'ils sont à des coûts de revient qui sont trop élevés, donc ils sont en concurrence avec l'Espagne, l'Italie par exemple, et ils n'arrivent plus sur les marchés export à vendre correctement leur vin, et ils se retrouvent le bec dans l'eau. Donc entre, ils n'ont pas assez de produits pour travailler. Et en plus, ils ont des coûts de revient qui sont importants et des difficultés à l'export. Donc aujourd'hui, sur par exemple mon département, c'est 4000 agriculteurs, c'est 3000 viticulteurs et c'est 1500 qui vont être en cessation de paiement.
Waouh.
Ah oui, wow. Non, c'est
50%.
C'est 50% des gens qui vont être en cessation de paiement. Donc là,
ça veut dire que les autres 50% ne sont pas loin aussi du même problème, parce qu'en général, ces choses-là fonctionnent en corporation. Donc
exactement. Donc aujourd'hui, tout le monde a des difficultés. Tout le monde a des difficultés. On a des stocks. Donc on a des baisses de production qui sont énormes. Hein. Cette année, on est plutôt le sud du département et de toute façon le pourtour méditerranéen, on est à 50% d'une récolte normale. Donc ça, c'est très, très difficile en agriculture. Et non seulement c'est difficile en agriculture, mais en plus, c'est difficile au niveau commercial parce que on a un manque de récolte, donc ça augmente le prix de revient parce qu'on a des charges fixes qui restent fixes et puis qui ont fortement augmenté avec les coûts des intrants, avec le coût de l'énergie, avec le coût des produits phytosanitaires. Et puis, d'un autre côté, ben, on perd les marchés parce qu'on est plus crédible. On a plus de volume. Donc, on est plus crédible pour attaquer les grands marchés export qu'on se fait prendre à tour de bras.
D'accord. Alors, quand vous parlez de problème du renchérissement du prix des intrants, prenons l'exemple de l'énergie. Est-ce que vous pouvez nous dire ou nous donner un ordre de grandeur de quelle façon ou à quel rythmique le prix ou les factures justement de paiement d'énergie a changé par rapport à 2 ans ou 3 ans avant?
Sur la facture énergétique en électricité, parce que ça c'est quelque chose qui est important. Alors c'est important pas forcément pour l'agriculteur qui est producteur sur ses terres, parce que lui c'est plus le gasoil qui va être important, mais sur toute la transformation, c'est-à-dire sur les caves viticoles où on a beaucoup de pompes, où on refroidit, on a des températures dirigées, etc. On a pratiquement doublé le prix de l'énergie.
100%.
Sur les conditions de stockage de froid, etc. Il y a beaucoup de gens qui étaient en fin de contrat. On leur a renégocié le contrat. On leur a pratiquement doublé leur coût énergétique en électricité. Sur les intrants, là où ça a été très important, c'est sur les engrais, puisque les engrais, il y a une grande partie qui vient justement de Russie. Et donc là, ça a augmenté à un moment, ça a doublé carrément, et puis après, c'est redescendu, on va dire qu'on a une augmentation de 40%.
Waouh!
Et sur le gasoil, là, donc, ils ont prévu de nous remonter de 10% tous les 6 mois, tranquillement, le coût de nos intrants.
une chose qui n'est pas très compréhensible en tant qu'à vue de Russie. La France, elle a environ 80% de son électricité qui est d'origine nucléaire. Donc, même si elle empathie des sanctions contre le gaz ou le pétrole russe, vu que son énergie est à 80% d'origine nucléaire, on ne comprend pas comment cela fait que justement les factures doublent comme ça de 100%, une augmentation de 100%. Comment vous expliquez ça? D'autant plus que les infrastructures, c'est-à-dire nucléaires, ont été amorties depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on pourrait même baisser le prix de l'électricité.
Oui. Alors, sur au niveau du prix, la production, etc., il faut mettre un petit bémol parce que les centrales nucléaires françaises sont quand même très vieilles et elles étaient en bout de course et elles ont un coût d'entretien aujourd'hui qui remonte quand même de façon importante. Donc ça, c'est le petit bémol au niveau du coût de production. Et puis surtout, on avait une programmation d'arrêter les centrales nucléaires. La France a vendu toute sa technologie aux États-Unis en particulier, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on est obligés d'embaucher des gens pour venir faire la maintenance dans les centrales nucléaires françaises. On est obligés d'embaucher des Américains pour faire venir pour faire notre maintenance. Bon, ça, c'est la petite parenthèse. Au niveau du coût et du coût de l'électricité, la France a signé avec l'Europe et en particulier avec l'Allemagne un coût de l'énergie qui est basé sur le coût le plus élevé de la production d'énergie électrique.
Et de la dernière centrale à gaz ouverte.
Voilà. Donc on a fait notre coût de production sur le coût du gaz, et donc avec l'augmentation du prix du gaz, eh ben on a eu un coût d'électricité qui s'est enflammé.
D'accord. Alors revenons maintenant au problème proprement dit des agriculteurs. Vous êtes quand même président d'une coordination assez importante. Une question sociale. Combien d'agriculteurs arrivent à dégager des revenus leur permettant d'avoir, je dirais pas un train de vie faramineux, mais au moins décent? Décent qui puisse, oui, c'est-à-dire manger à leur faim, donner à manger à leurs enfants, les envoyer dans des écoles pour qu'ils puissent étudier et ainsi de suite.
Alors, on a, sur les derniers chiffres, mais il faudra les vérifier, mais on est pratiquement à 30% des agriculteurs qui vivent en dessous du SMIG.
Waouh!
Donc, c'est quand même une proportion qui est très importante. Et puis, l'autre partie, elle vit avec pas beaucoup au-dessus du SMIG, et il n'y a que les grosses structures céréalières qui arrivent à s'en sortir correctement. Peut-être cette année, ils vont avoir des difficultés, mais parce qu'ils ont un gros coût énergétique. Il faut savoir qu'on a travaillé notre agriculture en Europe, qui fait qu'aujourd'hui, il faut entre 7 à 9 calories d'énergie fossile pour produire une calorie d'énergie agricole verte. C'est complètement fou. L'agriculture, normalement, on sème quelque chose dans un sol qui devrait être auto-fertile et qui devrait permettre de produire 10 calories. Au moins, en une calorie mise, on devrait produire 10 calories, alors qu'on est dans un système qui inverse. On a créé un système, en fait, qui est consommateur d'énergie. Donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, dès que le facteur énergétique augmente, les agriculteurs sont plus capables d'être rentables. Et puis, la deuxième chose qui a été faite, et en particulier par la PAC, c'est-à-dire qu'on a touché au prix des produits agricoles en les faisant de plus en plus bas, et les agriculteurs ne peuvent pas vivre en fait de la vente de leurs produits. Les agriculteurs vivent des primes, leur marge en fait elle est avec la prime qui est donnée par la PAC. Je donne un exemple tout simple. En France aujourd'hui, on est capable, moi je suis producteur ovin, donc de moutons, d'agneaux. Un kilo d'agneau en France, ça vaut à produire, ça vaut entre 9 et 9,50 euros le kilo pour arriver à produire un kilo d'agneau dans les règles que nous imposent la France et la communauté européenne. Mmh. C'est-à-dire qu'on a des règles sanitaires, on commence l'agneau inné, on lui met déjà deux boucles d'oreilles dans les oreilles, on doit remplir des tas de papiers, on doit aller à l'administration, on doit faire venir le vétérinaire, on doit le vacciner, on doit lui donner une certaine alimentation et pas une autre, etc. Après, quand on va emmener notre animal à l'abattage et pour le transformer en viande, il va falloir qu'on ait des véhicules qui soient autorisés, qui soient désinfectés, qui soient, etc. Enfin, on nous met plein de normes. Et on va avoir un coût d'abattoir dans lequel on est obligé d'aller et qui va nous coûter très cher, ce qui fait qu'à la fin, on va être à 9 euros du kilo. Et on n'arrive pas à vendre nos agneaux à plus de 12 euros maximum pour les labels, pour les AOC. C'est le prix maximum qui est payé à l'agriculteur. Le consommateur, lui, il va le toucher à 20 euros le kilo.
Waouh! Donc, 8 euros de profit.
Oui, exactement. Minimum. C'est le double. C'est le double. Et puis, à côté de ça, on va faire rentrer de l'agneau de Nouvelle-Zélande qui va arriver congelé et que là, ils vont toucher à 4 euros du kilo. Voilà. Donc, on va trouver dans les congélateurs des hypermarchés français. Eh ben, à 70%, on va trouver de l'agneau import qui vient soit d'Angleterre, soit de Nouvelle-Zélande, soit d'Australie, et qui va être à moitié prix par rapport à la production française. Et le seul revenu que va dégager l'agriculteur, en fait, c'est son système PAC, où il va lui toucher, alors par agneau, il va toucher une prime qui est à peu près de 20-21 euros par animal. Et il va toucher une prime à l'hectare quand il va faire passer ses animaux dans ses herbages, dans ses prairies. Eh bien, il va toucher une prime à l'hectare, et c'est cette prime qui va lui permettre de sortir un peu la tête de l'eau. Mais cette prime, elle va représenter donc c'est par exemple c'est 120 euros quand on a la prime en plein sur un herbage, et ça représente sur les exploitations. En moyenne, ça doit représenter dans les 20 000 euros. Enfin, on dit qu'il y a beaucoup qui ont moins de 5 000, mais sur les exploitations d'élevage, c'est à peu près ça, c'est dans les 20 000 euros. Donc, en fait, ça va lui dégager sa marge et de vivre, puisqu'il va être à zéro sur sa production, et les 15 ou 20 000 euros vont être, en fait, son revenu annuel.
C'est-à-dire que les agriculteurs, actuellement, transformé disons en fonctionnaire.
Exactement.
Indirectement, si c'est pas pire, c'est-à-dire en personne affiliée au réseau social d'aide, mais exactement. Les gens, c'est-à-dire que les gens ne gagnent plus leur vie avec leur travail.
On est dans l'esclavage, surtout que quand on gagne quand on dégage 20 000 euros sur une exploitation et qu'on travaille plus
un agriculteur. 20 000 euros annuels.
Annuel. Quand on gagne ça et qu'on travaille 70 heures par semaine, parce que quand on est éleveur, c'est tous les matins qu'il faut être à 6 heures du matin dans sa salle de traite pour aller traire les vaches. Hein. C'est pas quand on a envie. Donc ramené à l'heure, on a des gens qui sont rémunérés à la moitié du SMIC.
Donc, passez-moi l'expression, peut-être des gens qui sont dans le filet social, comme le RSA et tout, ils sont mieux rémunérés que certains agriculteurs qui travaillent justement 70 heures par semaine.
Ils sont mieux rémunérés que 50% des agriculteurs. Et c'est tout le système, de toute façon, c'est tout le système français qui est en train de partir. C'est-à-dire qu'en France, c'est plus intéressant de ne pas travailler que de travailler. Hein. On a construit. Nous, on a des difficultés en arboriculture. Par exemple, en France, on a des difficultés pour faire ramasser les pommes. On trouve personne qui veut ramasser les pommes. Il n'y a pas de Français qui veulent travailler. Donc, on est obligé de faire venir des Polonais et des Marocains pour ramasser nos fruits. C'est extraordinaire.
Ouais. Et donc, est-ce que les histoires-là qu'on entend de temps en temps sur le suicide, oh, c'est pratiquement souvent.
C'est un par jour.
Hein?
C'est à peu près un par jour.
Dans leur grange. C'est à cause de ça?
Oui, c'est à cause de ça. Alors, en plus, ce qui s'est passé, c'est que on a poussé les agriculteurs à investir de façon très importante sur leur exploitation. Donc, on leur donne des moyens, on leur donne des prêts pour acheter des gros tracteurs, pour acheter du gros matériel. Et un tracteur aujourd'hui, ça vaut entre 100 et 300 000 euros. Un tracteur agricole. Mmh. Donc, on leur donne des aides et on leur donne des moyens pour les acheter. Et puis, après, au bout d'un moment, eh bien, quand il y a des difficultés, ils sont complètement endettés et il y a des gens qui voient qu'ils ne vont pas s'en sortir. Et en plus, on a un système en France où on ne peut même pas, c'est extrêmement compliqué, on a des taxes sur... pour donner son exploitation à ses enfants, qui sont très importantes, et les enfants sont même pas capables de reprendre l'exploitation, parce qu'ils ont tellement de taxes à payer qu'ils préfèrent vendre, et on préfère vendre à l'extérieur plutôt que donner à ses propres enfants. Donc ça entraîne des suicides.
Ainsi s'achève la première partie de notre émission. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité Jean-François Chaperon pour la seconde partie de notre entretien après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Jean-François Chaperon, agriculteur et éleveur français, président de la coordination rurale du département de l'Hérault.
Alors, une autre question, Monsieur Chaperon. Dans l'état de la production locale française actuellement, comparativement à ce qu'elle était, disons, après la reconstruction d'après-guerre ou sous le général de Gaulle, est-ce que la production actuelle est capable de nourrir la France?
Alors, la production agricole aujourd'hui, sur certains produits, nous ne sommes plus souverainistes de notre agriculture. C'est-à-dire que dans les fruits et légumes, on a perdu notre souveraineté, donc on est obligé d'importer. En particulier d'Espagne, hein, qui est le plus gros fournisseur, mais le Maroc est en train de monter aussi de façon importante. Les seules productions où on a encore excédentaire, c'est le vin et les céréales. Mmh. Sinon, dans les autres productions, alors au niveau production de viande, je crois qu'au niveau volaille, on a perdu notre souveraineté, donc on importe, et je crois qu'on importe plus que ce qu'on produit. Y a des choses qui sont assez folles dans l'Europe, par exemple, c'est que l'Allemagne est passée devant la France en production de fromage.
Oui.
Alors ça, c'est des choses qui sont complètement folles. On n'est pas encore en sous-production, on est encore souverain et autonome sur notre production de fromage. Mais au niveau de l'Europe, on n'est plus l'alimentation de l'Europe. Donc oui, on a perdu notre souveraineté et on a perdu en fruits et légumes et on a perdu en viande, en volaille, on a perdu notre indépendance.
Et par rapport aux autres pays, disons au moins de l'Europe du Sud, qui sont à peu près dans les conditions climatiques de la France. Comment elle est la situation? Est-ce que c'est les mêmes problèmes ou il y a des pays qui s'en sortent mieux?
Non, il y a aujourd'hui en Europe, la structure de l'agriculture a tellement été détruite qu'il n'y a aucun un pays qui s'en sort. Et justement, c'est pour ça qu'il y a une révolte qui est européenne. Donc, toutes les agricultures sont en grande difficulté. Ça a commencé, d'ailleurs le mouvement est européen, hein, des agriculteurs. Il a commencé par les Hollandais.
Les Hollandais,
Il a commencé par la Hollande au mois de septembre. Et jusqu'aux élections là du mois de novembre où le parti agricole a fait bouger les choses et au niveau du gouvernement a changé de gouvernement. Et puis après donc là on a eu l'Allemagne qui a démarré, mais aujourd'hui c'est les Belges. Là je devais monter à Bruxelles tout à l'heure. Donc les Belges sont aussi dans la rue, les Italiens sont dans la rue. Les Espagnols l'ont été, mais on les a même pas vus. On a, de toute façon, on a un blackout complet sur ce qui se passe dans les pays européens. Mais les Espagnols vont redémarrer parce qu'ils sont en grande souffrance, les agriculteurs espagnols. Faut pas croire qu'ils sont en facilité. Ils ont des gros problèmes d'alimentation en eau. Et puis, ils ont des problèmes aussi de marché où les agriculteurs qui triment, ont leur bénéfice en fait qui est complètement spoilé par les intermédiaires. Ouais. Faut pas croire que les agriculteurs espagnols vivent bien, hein. Ils sont en difficulté comme nous. Hein.
J'ai vu par exemple concernant les fruits qu'en France, un kilo de revient de la pomme, la production de la pomme, c'est 36 centimes, si je ne me trompe pas. Et puis ouais. Sur les étals dans les supermarchés comme Leclerc, c'est vendu à plus de 2 euros.
C'est ça. Aujourd'hui, on a un coût de production qui est autour de en pomme. Bon, après la pomme, ça varie beaucoup d'un type de pomme à l'autre, mais on va dire qu'on a, pour faire simple, hein, on a un coût de production qui revient à 50 centimes à peu près. Pour les bonnes variétés, il y en a qui arrivent à les vendre à 60-70 centimes. Ça, c'est genre les variétés club, les Pink Lady, les choses comme ça. Mais pour les autres, ils sont plutôt autour de 50 centimes ou 40 centimes et parfois 30 centimes. Et donc, c'est juste la PAC qui leur fait la différence. Sinon, ils perdent de l'argent chaque fois qu'ils vendent un kilo de pommes. Mais aujourd'hui, vous ne trouvez pas un kilo de pommes, à part sur des actions ponctuelles. Le kilo de pommes, il est entre 2,50 et 3,50. Hein.
D'accord. Donc, voilà. C'est à peu près 500%.
Exactement. Alors, après, ils vous diront, mais c'est pas que la grande distribution qui fait sa marge, parce qu'il y a plein d'intermédiaires. Mais aujourd'hui, si vous voulez vendre un kilo de pommes, si quelqu'un se dit, tiens, j'ai un pommier, je vais vendre un kilo de pommes en France, c'est impossible. En France, il faut qu'il soit organisé en organisation de producteurs pour avoir le droit de vendre des pommes. Sinon, il n'a pas le droit. Et puis, il va avoir des normalisations à mettre. C'est-à-dire qu'il va éliminer dans son pack out, ce qu'on appelle le pack out, il va mettre uniquement 60% de sa récolte qui va être sur le marché. Parce que 40% sera non conforme. Parce qu'elle aura pas la bonne couleur. Parce qu'elle aura une petite tache. Parce que la forme, elle sera pas parfaite d'une pomme. Et ça, c'est une obligation. C'est-à-dire que s'il met, sur le marché sa pomme un peu tordue, on va lui dire non, ça correspond pas au standard, vous avez pas le droit de la vendre. Voilà. Et puis il va falloir qu'il ait une station fruitière, c'est-à-dire un hangar, une usine de transformation des pommes, enfin de conditionnement, qui va être à la norme. Donc il va falloir rentrer en blouse blanche avec un masque, avec des gants, avec voilà, il va falloir remplir des papiers à chaque fois. Et au bout d'un moment, on a jusqu'à 8 personnes qui travaillent au crochet de un agriculteur. Chaque agriculteur a entre 7 et 8 personnes qui sont dépendantes du para-agricole. Entre le fabricant de tracteurs, celui qui lui répare, celui qui fait les papiers, celui qui vient le contrôler, celui qui travaille à la chambre d'agriculture, celui qui travaille au département, voilà, ça fait 8 personnes qui sont sur son dos. Il faut les nourrir.
Mmh. Bien, c'est pas facile tout ça. Alors, Jean-François Chaperon, vos revendications actuellement, donc vous, les agriculteurs ont pratiquement pris d'assaut la capitale Paris. Ça se passe de la même façon en Allemagne. Vous dites que actuellement même en Belgique les choses commencent à bouger. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement écoute les préoccupations et tend l'oreille aux revendications des agriculteurs?
Alors, sur l'impression, oui, on l'a. Quand ils nous parlent, ils sont tout gentils. Ils disent, mais on vous a bien compris. Moi, j'ai rencontré plusieurs fois le ministre de l'Agriculture qui m'a dit, mais je comprends bien ce que tu me racontes et on va faire des efforts. Mais c'est pas de notre faute. C'est Bruxelles qui nous impose ça. Souvent, la réponse, c'est ça. Mais c'est pas notre faute. Nous, on est d'accord avec toi. Mais c'est Bruxelles qui nous impose ça. On est obligé, dans la communauté européenne, on est obligé de faire ça. Bon, ça, c'est un premier point. Et puis, dans un deuxième point, en fait, c'est quand même une stratégie globale à long terme qui est en train de transformer l'agriculture européenne en une production aux mains des agro-industriels. Et moi, je vais aller plus loin hein, en disant il y a une vraie volonté que ce soit plus les agriculteurs qui possèdent leurs terres. C'est comme ça s'est passé aux États-Unis il y a fort longtemps et comme ça s'est passé, par exemple, en Ukraine. L'exemple de l'Ukraine, il est important. 50% des terres agricoles d'Ukraine n'appartiennent plus aux Ukrainiens. Elles appartiennent à des grands groupes, elles appartiennent à des fonds de pension anglo-saxons et elles appartiennent à des milliardaires américains. Mais elles n'appartiennent plus aux Ukrainiens. Et ça, c'est vouloir faire de l'agriculture, alors quantitativement et qualitativement, c'est une arme extraordinaire, l'alimentation. Parce que dans la quantité, ben, vous faites peur aux gens en disant qu'on va vous affamer, etc. Comme il y a un effet King en économie agricole qui est très important, ben, vous avez juste annoncé qu'il en manque 10% et d'un seul coup, le prix est multiplié par deux. Mmh. Donc, les agro-industriels, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils disent « Oh, mais il y en a beaucoup trop ». Donc, le prix s'effondre complètement. Ils achètent à 1 et puis après, ils disent « Ah, mais non, il n'y en a plus du tout ». Et le prix monte à 4 et ils ont fait 3 de marge. Donc on est dans un système agroalimentaire qui est basé sur une spéculation des denrées. On l'a vu par exemple nous en France sur l'huile. Il y a 2 ans, on est premier producteur d'huile de tournesol en Europe et on n'avait plus d'huile de tournesol en France parce que il y a une spéculation sur l'huile de tournesol avec les carburants verts, les diesters. Et il y a eu un stockage au niveau de l'huile qui a fait qu'on a fait monter le prix et qu'on a permis de rentrer du tournesol ukrainien que le consommateur a payé cher et que l'agro-industriel a payé pas cher du tout.
Et la qualité ?
Et la qualité est absolument pas au rendez-vous puisque au niveau des normes de travail, les Ukrainiens ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils peuvent bombarder autant de produits chimiques qu'ils veulent. Donc il y avait plus de contrôle, donc pas de problème. Hein.
Mais actuellement, parce que aujourd'hui nous avons entendu que il y avait des agriculteurs qui ont été arrêtés par la police. Est-ce que une possibilité que ce conflit se dénoue dans de bonnes conditions ou les choses vont beaucoup plus vers l'affrontement entre les agriculteurs et les pouvoirs publics?
Alors nous sommes à un tournant très important de ce qui est en train de se passer en France et surtout en France. Donc, alors ce sont des gens qui sont avec qui je suis, donc c'est la coordination rurale. Donc, qui est en fait le deuxième syndicat en nombre de voix électorales, mais qui est le premier syndicat agricole d'agriculteurs. Parce que dans notre syndicat, nous ne sommes que des agriculteurs. Il n'y a pas d'agro-industriels et il n'y a pas de gens satellites du para-agricole qui sont chez nous. Donc, sur ces agriculteurs, ils sont montés du sud-ouest de la France jusqu'à Paris et l'objectif était... d'aller à Rungis. Rungis, c'est le marché d'intérêt national qui est la grande plateforme où beaucoup de choses sont importées et dispatchées après sur toute la France, mais surtout sur Paris. C'est plus vrai pour Paris aujourd'hui, hein, parce que c'est moins vrai pour les régions, et d'aller de dénoncer les produits d'importation qui étaient... L'objectif, il n'était pas du tout d'aller casser, on nous a dit qu'on allait affamer Paris, etc. Faut savoir que les plateformes qui sont à l'extérieur de Paris peuvent très bien alimenter Paris aujourd'hui. Donc, c'est plutôt les petits commerces qui sont alimentés par Rungis. Mais le but était, nous, de démontrer que les importations qui étaient faites et que nous mettions des règles qui nous empêchaient de travailler alors que les autres pouvaient rentrer la marchandise. Et le gouvernement a choisi, puisque nous ne sommes pas le syndicat majoritaire qui travaille avec le gouvernement, elle a choisi de bloquer nos agriculteurs. Donc on a 79 agriculteurs qui ont été mis en garde à vue, donc qui ont fait 800 km avec leur tracteur quand même. Faut être courageux, hein, 800 km. Donc on les a bloqués tout au long du chemin en leur mettant des blindés. Bon, ça a été fait sans violence, mais il faut reconnaître ça, c'est que la gendarmerie française a fait ça sans violence, donc ça s'est bien passé. Donc on a contourné et on est arrivé à Paris. Et à Paris, quand ils sont rentrés, donc ils ont dû rentrer à pied, puisque là, il y avait tous des barrages avec des blindés qui nous ont empêchés de rentrer. Et quand ils sont rentrés dedans, au bout d'une heure, ils ont été encerclés et on les a mis en garde à vue. Voilà. Aujourd'hui, donc il y en a une partie qui sont sortis. On a encore quelques-uns qui sont encore en garde à vue. Et la stratégie, et on a une véritable stratégie d'intimidation pour que la coordination rurale ne puisse plus parler. Alors ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire que toutes les campagnes sont en train de s'enflammer avec des gens qui ne sont pas syndiqués. Donc on a des actions spontanées, et par exemple dans mon département, là je reçois les nouvelles en même temps que je vous parle, il y a des interceptions autour de la ville de Montpellier, autour de la ville de Lodève, de Béziers, où il y a des agriculteurs en colère et qui maintenant commencent à être rejoints par d'autres professions. Donc on parle des travaux publics aussi qui pourraient venir. Et puis petit à petit, il y a des gens qui viennent. Et on risque d'avoir un enflammement de toutes les campagnes.
D'accord. Alors maintenant, par rapport aux solutions. Donc, moi, d'après ce que vous avez expliqué, pour moi, il n'y a pas 36 solutions, comme on dit en France, puisque le ministre lui-même reconnaît que ce n'est pas le gouvernement français qui impose ces conditions qui détruisent l'agriculture, mais c'est le fait que le gouvernement français est soumis aux directives de la Commission européenne. Donc, à votre avis, c'est quoi la solution dans ce cas-là? Il faut que la France quitte l'Union européenne ou changer le mode de fonctionnement de la Commission européenne? C'est quoi la solution? Quelles sont vos revendications, c'est-à-dire concrètes, et que vous pensez que le gouvernement français est capable ou a les moyens de faire entendre au sein de l'Union européenne?
Alors, sur cette question, c'est le fond du débat et tout le monde a sa solution à proposer. Donc là, ce que je vais dire, moi, n'engage que moi. Au niveau de la coordination rurale et du syndicat, on n'a pas les moyens de savoir. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une refonte complète de la PAC et de la politique agricole commune. En relaissant les pays être souverains au niveau de l'agriculture mais aussi souverains au niveau de l'Europe. Parce qu'il y a des produits où on est tout à fait d'accord de dire que c'est plus intelligent de les produire en Espagne que de les produire en Belgique ou au Danemark. Donc on est tout à fait d'accord qu'il y ait quelque chose qui soit organisé, mais que cette organisation soit faite par les agriculteurs et non pas par les agro-industriels qui sont financés et qui sont dirigés par des mondialistes. Voilà, ça c'est la chose importante. Alors comment y arriver? Alors est-ce qu'il faut... je pense que si l'Europe explose, eh bien on aura fait gagner les Américains. Et si l'Europe agricole en plus explose, on aura fait gagner le système américain qui va nous faire peur en nous disant que les Russes vont nous sauter dessus et nous assassiner. Donc on va en profiter pour monter la pression et jusqu'au risque d'avoir un conflit européen et un conflit mondial. Mmh. Donc l'explosion de l'Europe, non, je crois pas. Par contre, l'implosion de l'Europe et de reprendre la main sur l'Europe, de reprendre la main sur nos États, ça c'est tout à fait possible. En redisant, eh bien, on est tout à fait capable d'organiser notre politique. Il y a des pays qui le font très bien. Le Canada, la Suisse, ils ont des organisations en disant, ben voilà, qu'est-ce qu'on est capable de produire, qu'est-ce qu'on produit bien, qu'est-ce qu'on produit à un coût qui est plus intéressant que le produire ailleurs, où est la notion de notre souveraineté, dans quelle proportion, eh ben, on peut dire, on est capable au moins de produire 80 à 90%. De notre production, comme ça s'il y a des problèmes climatiques ou s'il y a je sais pas quoi, on sera toujours capable de se nourrir. Et puis après, on trouve des accords avec les autres pays, d'abord européens et ensuite dans une plus grande notion au niveau mondial. Mais de toujours respecter cette chose en disant que nous sommes capables de produire sur place et de définir le prix. La différence du prix, elle est très faible. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, on va prendre le lait, par exemple. Aujourd'hui, le lait, il est payé 40 centimes du litre aux agriculteurs. Alors qu'il a besoin d'être payé, on a un coût qui est autour de 60 centimes, 50 centimes. Voilà, si on a 50 centimes et qu'on est payé 60 centimes, on s'en sort très bien. C'est pas compliqué, c'est 20 centimes d'écart. Ramener aux consommateurs, c'est rien. Et puis, il faut savoir quand même que les grands groupes agro-industriels, comme Sodeval, qui est détenu d'ailleurs par le syndicat de la FNSEA, enfin détenu, qui est piloté par la FNSEA, Lactalis, qui est quand même un des milliardaires français, eux, ils s'en sortent très bien, ils gagnent beaucoup d'argent. Donc, il y a un problème de ces 20 centimes-là, on peut trouver la place pour les mettre. Et puis, même le consommateur français est tout à fait d'accord pour payer, peut-être pas les 20 centimes, mais c'est pas qu'il n'est pas d'accord de payer les 20 centimes. Les 20 centimes, il peut les payer sur le litre de lait, parce que ça représente vraiment un pourcentage qui est infime. Ce qu'il n'est pas capable de payer, c'est que si on augmente de 20 centimes, derrière, le transformateur va reprendre sa marge et la même marge, donc ça va augmenter sa marge, et au final, le distributeur va encore augmenter sa marge.
Est-ce que la solution, ce n'est pas que, comme au temps du dirigisme économique du général de Gaulle, c'est que l'État intervienne. L'État est quand même le garant de la justice sociale, du bien commun et de l'intérêt général. Et que, puisque la marge entre le prix de production et celui de vente à l'étalage dans les supermarchés est énorme, on peut bien trouver une formule de telle façon à ce que chaque personne trouve son compte, en commençant par le producteur, parce que si le producteur meurt, c'est toute la chaîne qui meurt derrière.
Tout à fait. C'est l'humanité qui meurt. Si le producteur meurt et qu'on perd notre agriculture paysanne, c'est l'humanité qui va s'effondrer. Ça, c'est un autre débat sur lequel on pourra parler plus longuement. Alors, il y a les deux façons de voir les choses. On peut dire, on fait une intervention de l'État et c'est l'État qui décide, mais là, on devient un pays socialiste, même communiste. Et on sait qu'à long terme, ça marche pas. Donc, il faut absolument que ça vienne des agriculteurs et qu'il y ait un partenariat entre les agriculteurs, les transformateurs industriels et la distribution. Et ça, c'est la vraie solution et qui est une solution à long terme. Si on a une intervention de l'État, c'est une solution qui ne fonctionne pas. Parce qu'on va avoir l'État. D'abord, qui est l'État en France? On se le demande. Qui est l'État en Europe? Qui décide pour nous? Je ne crois pas que ce soit des Européens qui décident. Donc, au bout d'un moment, pour calmer le peuple et la populace, ils vont saupoudrer et intervenir. Et puis, comme le système, de toute façon, ne fonctionne pas, on va être tout le temps dans des dérives et on va revenir à la solution de départ systématiquement. La solution, elle doit venir des agriculteurs avec les transformateurs et les distributeurs.
D'accord.
Donc, la participation de la population qui s'engage aussi pour sa propre survie à aller vers des produits. Aujourd'hui, par exemple, on dit la crise du vin, mais on a une crise du vin. La consommation de vin mondiale est plutôt stable et plutôt en croissance. Mais la consommation de vin française est plutôt en diminution. les consommateurs français boudent le vin. Ils boivent beaucoup moins de vin. Alors l'État est toujours en train de dire qu'il faut pas boire du vin, c'est la catastrophe, on va avoir des accidents de voiture, etc. Ça va nous tuer la santé, ça va nous faire mourir. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben les gens, ils boivent de la bière. Et puis ils boivent des alcools forts. Mmh. Donc on a déplacé le commerce en racontant des trucs qui sont pas vrais. On a déplacé et aujourd'hui, ben, les Français, ils consomment plus de vin. Parce que c'est un produit qui reste assez cher quand même. Et puis surtout que c'est vrai que quand on a bu deux bouteilles de vin, qu'on a commencé à l'apéro avec un verre de rosé, et puis qu'on a continué, et puis qu'on a passé toute l'après-midi et qu'on arrive au soir, on est complètement cuit. Si on a bu nos deux bouteilles, il n'y a pas grand monde qui résiste. Alors que les gens, ils sont capables de boire de la bière avec des alcoolisations qui sont moins fortes. Et puis à la fin de la soirée, ils se mettent de la vodka avec du Red Bull dans le nez et à 4h du matin, ils s'effondrent. Ouais. C'est le système qu'on est en train de construire.
Bien, alors Jean-François Chaperon, deux dernières questions. Vous bénéficiez d'un soutien très large au sein de l'opinion publique et il y a quand même les élections européennes qui approchent. Pensez-vous que votre mouvement puisse engendrer un mouvement politique durable à la manière du mouvement agriculteur citoyen aux Pays-Bas, ou au moins à ce qu'il y ait des partis politiques qui prennent à bras le corps le problème agricole et qu'ils le défendent, mais effectivement, hein, pas pour aller faire des blabla et lever la main pour ne rien dire dans le Parlement européen, mais pour forcer le changement.
Alors je suis pas encore très optimiste là-dessus. Je suis pas très optimiste parce que aujourd'hui on essaie de nous récupérer politiquement de façon importante. Mais jusqu'à maintenant, le système politique mainstream, on va dire, français et européen, ne nous a pas beaucoup aidés. C'est-à-dire que tous les gens sont là pour dire on va vous défendre. Et puis dès qu'ils arrivent au pouvoir et à l'Assemblée, on s'aperçoit qu'ils font le contraire. C'est ce qui s'est passé en Italie. En Italie, ça devait être le changement avec la droite, alors extrême droite, ça fait un peu rigoler, quoi, mais avec une, on va dire, une droite un peu dure, enfin, au moins une droite qui se raconte souverainiste. Du jour où ils sont arrivés au gouvernement, ils sont allés à l'Europe, ils ont baissé la tête et ils sont rentrés dans le rang et ils ont été presque pires que les gens d'avant. C'est pas certain qu'en Hollande, c'est toujours les mêmes qui sont en train de décider pour l'instant en Hollande, hein. Ouais. Donc il y a encore un chemin à faire. On est tombé dans un monde où le politique est devenu un pervers. Aujourd'hui, pour réussir en politique, il faut être pervers. C'est-à-dire qu'il faut pas vouloir le bien des gens. Il faut vouloir les manipuler, quitte à ce que ça vous rapporte pas. Et pour lutter contre les pervers, c'est extrêmement difficile. Avec la bonne volonté, avec la bonne foi, on a vraiment du mal à lutter contre les pervers. Je pense que c'est le point le plus difficile et peut-être l'étape de la transformation, parce que nous sommes de toute façon dans une grande transformation de la France, de l'Europe et du monde. On est dans un rééquilibre mondial qui est en train de se créer. Mais on a cette étape extrêmement difficile, et comment en sortir, de faire sauter cette perversité politique mondiale.
Et pratiquement, c'est-à-dire parce que la solution pour les agriculteurs, donc pour l'alimentation en Europe, donc notamment en France, c'est une solution politique. Il faut absolument, ce n'est pas une affaire technique seulement. Ce dont on a parlé depuis une heure découle de choix politiques désastreux qui ont été imposés aux agriculteurs européens.
Donc, oui, c'est-à-dire qu'on a vendu une affaire politique. politico-technique, c'est-à-dire qu'on a, on est en train de nous vendre une histoire d'écologie qui n'a rien de technique. L'écologie, c'est un fantasme. C'est pas
un fantasme.
La façon dont elle est présentée, c'est un fantasme religieux. Ça n'a rien à voir avec des techniques. Il n'y a aucune réalité là-dedans. Donc ça, c'est une manipulation politique. Et on a fait la même chose avec l'agriculture en disant, vous devez travailler vos terres de telle façon parce que sinon, on n'aura pas assez à manger. Donc on a mis le spectre de la faim et on a obligé les agriculteurs, mais en fait on les a obligés à quoi? On les a obligés à détruire la fertilité de leurs terres naturelles pour en devenir des consommateurs d'énergie fossile. Le problème de fond, il est là. C'est pour ça qu'il est extrêmement... aujourd'hui on parle de politique, est-ce que c'est la droite, est-ce que l'extrême droite qui va nous sortir du truc, etc. Non, non, tout ce système c'est la même chose. Ce qui va nous permettre de nous en sortir, c'est de retrouver nos terres qui sont auto-fertiles et de ne plus avoir à être dépendant de l'énergie fossile. C'est la seule chose qui peut vraiment, à long terme, nous sortir de ça, de ce système. Et c'est pour ça que l'étape, elle est difficile. On est à la croisée d'un chemin. Et la première étape que nous, les agriculteurs, on demande de la base, donc apolitique, c'est de dire stop. L'agriculture et la politique agricole commune n'est plus décidée par des politiques et des pseudo-techniciens. Elle est décidée par des agriculteurs. Voilà, c'est ça le notre... Donc on arrête ce millefeuille de nous raconter comment on doit travailler. On a un slogan à la CR qui dit « Foutez-nous la paix, laissez-nous travailler ». Les agriculteurs, ils connaissent leur métier. Ils savent comment travailler, ils savent comment faire de l'agriculture de qualité et rentable. À long terme.
Bien, alors une dernière question, Jean-François Chaperon. On se souvient que le gilet jaune avait été une révolte de la France paysanne, de la France périphérique, délaissée. Est-ce que la révolte des agriculteurs n'est pas un deuxième volet de cette même révolte? Est-ce qu'il n'y a pas là un potentiel qu'on pourrait organiser justement pour forcer un changement dans le pays?
Alors, c'est notre volonté en disant là-bas, la crise des gilets jaunes, c'est une grande douleur générale. Le problème qui a été des gilets jaunes, c'est que il n'y avait pas d'idée en face. Il y avait ni idée ni leader. Chacun avait une plainte, mais des revendications, mais pas de solution. Et le mouvement, il a essayé d'être récupéré à droite, à gauche. En France, c'est plutôt la gauche qui a essayé de le récupérer. Mais comme il n'y avait pas d'idée derrière et pas de solution, ben le mouvement s'est effondré. Le risque de l'agriculture, et c'est qu'on soit un peu dans la même situation. C'est pour ça qu'on a peut-être une étape à passer, je ne sais pas. Il y a peut-être une étape où l'Europe va devoir imploser avec un passage... moi, je vois quand même un passage avec une droite dure dans tous les pays européens qui est en train d'arriver, mais qui sera une étape. Parce que c'est pas cette droite dure qui va être capable d'apporter des solutions. Mmh. Parce que si chaque État européen il croit qu'il va s'en sortir tout seul, il va pas s'en sortir du tout. Donc, mais on a peut-être besoin de cette grande panique.
Quand vous dites que ils pourront pas s'en sortir, c'est-à-dire c'est par rapport à cette oligarchie globaliste et mondialiste pilotée essentiellement par les Américains et qui écrase toutes les nations.
Exactement. Voilà. Donc en fait, ces gens-là sont complètement manipulés. Alors ces gens-là, c'est nos dirigeants, hein, que ce soit le RN ou que ce soit je sais plus comment ça s'appelle, Renaissance et toute la bande. Ils ont pas de notion, mais ils sont complètement pilotés. Donc ils prennent que des décisions qui nous nuisent et qui rapportent à on va dire la caste américano-anglo-saxonne, quoi. Hein. Mm-hmm. Le World Economic Forum, il n'y a pas de secret. Le mal général, il vient de là et il est piloté de là.
D'accord. Je vous remercie, Jean-François Chaperon. J'espère que votre préoccupation et votre appel et votre tout ce que vous avez développé sera entendu. Et j'espère que les agriculteurs pourraient retrouver le chemin d'un travail digne et rémunérateur pour leur effort.
Voilà. Il suffira de laisser les agriculteurs travailler et de faire leur travail, et les choses vont doucement se mettre en place. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain, et on risque d'avoir des étapes un peu violentes qui arrivent.
Ben, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.
Merci.
C'était Jean-François Chaperon, agriculteur et éleveur français, président de la coordination rurale du département de l'Hérault. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis. Je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.